Bon vendredi à tous, bienvenue à votre émission Les Voix de Service Magazine. Il est 9h, nous sommes un peu plus froid ce matin, on espère que vous allez bien. Catherine Emmanuel au micro, je ne suis pas seule en studio. Bonjour Francine Forget.
Bonjour Catherine, ça va bien?
Oui, ça va très bien et toi?
Oui, mais certainement, certainement. Il fait beau malgré tout.
Malgré tout.
Oui, puis on s'en va vers la chaleur, c'est ce qu'on nous a dit.
C'est ce qu'on nous a dit, effectivement.
Bon, alors,
un beau week-end
croyons,
à venir.
Croyons.
Nous, on a le droit de parler de la météo parce qu'on est le vendredi.
Oui, c'est ça.
Donc, on a le droit de le faire parce qu'on annonce des bonnes nouvelles pour le week-end.
Exactement.
Et que vas-tu nous lire aujourd'hui?
Bon, alors, cette semaine, c'était le méga congrès sur la recherche au Québec, celui de l'ACFAS. Alors là, je vais vous parler de la recherche, donc de éthique et recherche, et aussi d'apprentis-chercheurs, donc de jeunes cégepiens qu'on intéresse à la recherche dès le collège. Je vais aussi vous parler de la reconnaissance faciale en Chine. En fait, on va commencer avec ça. Et si on a le temps vraiment, là, le sujet récurrent, la crypto-monnaie.
Oh wow! De retour, cette crypto-monnaie.
De retour.
Il y a un lien toujours à chaque semaine. On poursuit les mêmes
dossiers.
Oh
oui, c'est ça, exactement.
Merci, Francine. Pour ma part, je vais continuer à lire ce dossier de qualité de vie dans Nouveau Projet de cette édition. Aujourd'hui, je vous lis un article de Aurélie Langteau. Cette jeune journaliste, aussi auteure, et elle étudie aussi à la maîtrise en droit, puis elle est un peu activiste, on doit le dire. Elle a des opinions très intéressantes et sur la qualité de vie. C'est un article qui s'appelle « Vers une déclaration généralisée, ébauche de marche à suivre ». C'est très intéressant, ça sera dans quelques instants. Bien sûr, vous n'avez pas la voix d'Hélène ce matin, on la salue. Elle est en train de chronométrer des jeunes au secondaire, je crois, pour des cours de natation. Alors, elle fait du bénévolat un peu partout, notre Hélène, donc on la salue de loin. On vous revient dans quelques instants. Francine, je te laisse débuter.
Oui, avec la reconnaissance faciale chez les Chinois. C'est un dossier de Marc Thibodeau, dans la Presse Plus, à la fin d'avril 2018. À l'image d'un scénario digne de la populaire série dystopique Black Mirror, il suffit désormais en Chine de présenter de gré ou de force son visage à la caméra pour voir s'ouvrir ou se fermer l'accès à un monde de possibilités. Cela a toutefois un prix. Celui d'être épié, fiché, coté, catégorisé. Faut-il craindre l'ère de la reconnaissance faciale? D'ici 2020, les autorités chinoises souhaitent disposer d'un système capable d'identifier tout individu filmé sur la rue en moins de 3 secondes avec une efficacité supérieure à 90 %. Mais déjà, un peu partout, la reconnaissance faciale fait partie de la réalité quotidienne des Chinois. Pendant des siècles, les empereurs des dynasties Ming et Qing se rendaient annuellement au Temple du Ciel dans le sud de la capitale chinoise afin de plaider pour de bonnes récoltes. L'endroit est aujourd'hui une attraction touristique courue où nombre de résidents de Pékin convergent pour jouer au go ou aux cartes, chanter ou encore s'adonner à de surprenants exercices comme la marche à reculons en tentant d'oublier le smog qui prend régulièrement la mégapole en étau. Le pavillon principal, construit en 1420, se dresse du haut de ses 38 mètres au cœur du complexe qui semble peu susceptible, a priori, de s'illustrer comme un haut lieu d'innovation technologique. La présence, dans l'une des toilettes publiques, d'un surprenant distributeur suggère cependant le contraire. Les autorités ont mis en place l'appareil dans l'espoir de diminuer le vol et la consommation de papier de toilette. La méthode semble tout droit tirée de Black Mirror, une série britannique de science-fiction qui explore les conséquences que pourraient avoir les technologies sur nos vies dans un avenir proche. Comment ça marche? L'utilisateur présente son visage devant une caméra intégrée dans l'appareil qui le place en mémoire tout en libérant un segment du précieux papier. Le bénéficiaire ne peut en obtenir un autre que 10 minutes plus tard en présentant de nouveau son visage. Maoudi, un vieil homme souriant qui visite le parc avec ses petits-enfants, a tenté en vain lors du passage à la presse d'utiliser l'appareil qui restait impassible devant ses rictus. « Ça fonctionne pas », Ça fonctionne pas, répétait-il en rigolant. Le préposé affecté au nettoyage du petit pavillon n'en démordait pas pour autant. Je passe beaucoup moins de temps à faire le ménage, a-t-il déclaré, après avoir démontré comment utiliser le système. À un millier de kilomètres de là, dans un centre commercial de Shanghai, la reconnaissance faciale est tout aussi à l'honneur. Suning, un important détaillant qui compte plus de 1 600 magasins à l'échelle du pays, a ouvert en novembre un singulier établissement sans vendeur où tout est fait de manière électronique. Les clients doivent d'abord lier leur visage à leur compte de banque par l'entremise d'une application accessible sur leur téléphone. Ils peuvent ensuite accéder au magasin et aux articles de sport en vente en montrant leur visage à une caméra. Le même scénario se répète à la sortie. La porte s'ouvre après qu'un lecteur électronique a relevé le prix des articles que la personne tient en main et les a débités. Le responsable du magasin, Chen He, présent pour guider l'éventuel client à travers les procédures, maintient que l'endroit est très populaire. Il ne voit rien à redire par ailleurs au fait que l'image du visage des clients soit stockée par Suning. Beaucoup d'étrangers l'utilisent, dit-il, pour souligner le caractère inoffensif de la pratique. La reconnaissance faciale trouve une application plus préoccupante dans un autre secteur de la ville, à l'angle de deux importantes artères. Des caméras de surveillance ont été positionnées de manière à cibler les piétons et identifier d'éventuels contrevenants qui traversent alors que la lumière est au rouge. Shen Woping, un bénévole qui aide à réguler la circulation, s'enthousiasme de leur efficacité. Le système prend une photo et vous reconnaît à partir de celle qui se trouve sur votre carte d'identité. La police vous appelle ensuite et vient à votre maison. Les autorités projettent aussi, occasionnellement, sur un abribus voisin, l'image des contrevenants, de manière à les embarrasser et à les pousser à rapidement régler l'amende découlant de leur faute. Li Dongwei, un jeune homme de 23 ans, pense qu'il est normal que ces images soient reproduites. Il ne devrait pas y avoir de tolérance pour ceux qui ne respectent pas les règles de circulation, dit-il, tout en précisant que ce serait aller trop loin que d'inclure le nom des contrevenants. Les ambitions des autorités chinoises par rapport à la reconnaissance faciale vont bien au-delà de la régulation de quelques artères achalandées. Et les questionnements par rapport au caractère potentiellement intrusif de cette technologie risquent fort de se démultiplier si les autorités permettent leur expression. Le South China Morning Post, un quotidien de Hong Kong, rapportait récemment que le gouvernement a confié à des entreprises chinoises la tâche de produire d'ici 2020 un système capable d'identifier un individu filmé sur la rue en moins de 3 secondes avec une efficacité supérieure à 90 %. Selon les journaux, relayant la propagande du régime, la technologie est déjà en application et utilisée par les autorités dans de nombreuses provinces chinoises, à défaut d'être pleinement opérationnelle à l'échelle nationale. À la mi-mars, un article du Global Times relayait notamment les mises en garde d'un corps policier de la ville de Yangyang, dans le sud du pays, qui vantait les capacités de son système de reconnaissance faciale. Les fugitifs et les suspects qui ont réussi à cacher leur identité pendant des années seront appréhendés immédiatement à leur arrivée dans la zone, prévenait-on. Alors, la chère reconnaissance faciale dont on parle beaucoup, qui a des effets moins apprécié, avec Marc Thibodeau dans la Presse Plus du 28 avril 2018.
Je poursuis vers une autre direction, toujours peut-être un peu dans... On n'est pas dans les technologies, mais on est dans la critique de nos modes de vie. Donc, ça peut faire un peu écho à ce que Francine nous disait. C'est un article de Aurélie Langteau dans Le Nouveau Projet, la section « Mode d'emploi » vers une décélération généralisée, ébauche de marche à suivre. Comment contrecarrer les impératifs de productivité et toutes les injonctions qui accaparent notre temps, notre vie? L'essentiel de mon temps est structuré par l'extinction successive de petits incendies. Il s'agit d'exécuter les tâches urgentes, terminer un travail universitaire, rédiger un article ou un rapport de recherche, préparer une conférence, faire les courses, planifier des rendez-vous, le plus efficacement possible dans l'espoir de dégager un peu de temps pour les choses significatives, c'est-à-dire des activités essentiellement humaines. J'ai souvent l'impression de n'avoir que peu de contrôle sur les exigences qui grèvent les heures dont je dispose. Les tâches sont saucissées à l'intérieur d'une plage horaire déconnectée de l'expérience concrète du temps. Le moment de la journée, le jour de la semaine, les saisons, le temps d'éveil, de déplacement, de repos. Lorsqu'arrive inévitablement le moment où il m'est impossible de suivre la cadence, par fatigue ou par surcharge, c'est la colère qui prend le dessus. J'enrage de m'être moi-même piégée, encore, me laissant prendre au jeu de la surenchère d'engagement, parce qu'il fallait bien faire, se démarquer, gagner sa vie et autres tâches connexes. Les impératifs qui accaparent mes jours nourrissent mon anxiété. Je dois faire cela, puis cela, et 100 fois sur le métier remettre mon ouvrage. Sinon, ça sera l'échec, la précarité, l'humiliation. À un point tel que même lorsque je bénéficie d'un temps libre, il m'est difficile de ne pas céder à la pression de l'occuper au possible. Je me surprends à anticiper nerveusement ce qui vient, ou alors à réfléchir à ce que je pourrais faire de plus. Mes instants de répit sont colonisés par une série d'appels à la productivité qui induisent une accélération apparemment sans limite du tempo de ma vie. Que personne ne soit dupe, cette tentation du toujours plus n'est en aucun cas un signe d'excellence. Il s'agit bêtement d'aliénation, d'une tendance pathétique à la fuite en avant, qui empêche d'envisager les choses dans la durée. Les priorités s'ordonnent selon les critères extérieurs, froidement axés sur l'efficacité et la performance. Nous sommes dépossédés de la faculté d'organiser notre horaire en fonction de ce qui compte vraiment, sur le long cours, et on nous enjoint plutôt de valoriser les gestes qui portent leur fin en eux-mêmes et qui procurent une satisfaction immédiate. Il faut vivre à fond chaque instant, notamment en maintenant un rythme effréné jusque dans le divertissement. Faire la fête, manger jusqu'à rouler par terre, faire des voyages extravagants, du bungee, des marathons, du crossfit et des photos Instagram spectaculaires. J'ai pour ma part souvent l'impression de vivre une sorte de présent infini, pour reprendre l'expression d'Annie Ernaux, où je m'occupe, mais ne cultive rien. S'il m'arrive d'éprouver un sentiment de satisfaction ponctuelle, ce n'est pas exactement l'idée que je me fais d'une vie bonne et pleine de sens. Pour tout dire, je cherche la pédale de frein. Mais je crois qu'il ne suffira pas pour se réapproprier le temps d'aménager ici et là des bulles où la cadence est provisoirement ralentie. Envisager les choses d'un point de vue strictement individuel, articulé autour de la discipline de vie, ne ferait qu'apaiser les symptômes du mal sans s'attaquer à ses causes. Je pense qu'il faut envisager un frein plus large, collectif. C'est dans cette perspective que je dresse ici un humble mode d'emploi vers une décélération généralisée. Point 1. Constater l'accélération. La précipitation du rythme de nos vies n'est pas qu'une impression subjective. Le philosophe Hartmut Rosa, qui a écrit « Accélération, une critique sociale du temps », explique que les sociétés de la modernité tardive sont le théâtre d'une accélération objective et généralisée. Bien sûr, les heures ou les semaines ne s'écoulent pas objectivement plus vite, mais le nombre d'épisodes d'action par unité de temps, lui, augmente. Ainsi, le temps se densifie et le rythme de la vie sociale s'accélère bel et bien. Ce mouvement, pour Rosa, est à mettre en lien avec les mécanismes de valorisation du temps. L'idée que le temps, c'est de l'argent, nous pousse à rechercher sans cesse de nouvelles technologies qui permettent de produire plus vite. Les progrès réalisés à ce chapitre forcent les individus à s'adapter constamment pour continuer à tirer leur épingle du jeu, ce qui accroît d'autant le rythme de vie, mais aussi la cadence du changement social. Pour résumer, trivialement, plus ça change, plus ça change.
Je sais, je sais. I love you. I love you. Y'a de la rumba dans l'air, le smoking de travers. Je te suis pas dans cette galère. Ta vie, tu peux pas la refaire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des gravats d'avant-guerre. Casino, c'est qu'un tas de pierres. Ta vie, tu peux pas la refaire. Branche un peu tes écouteurs par ici. La mer est déjà repartie. Le vieux casino démoli, c'est fini. Y'a de la rumba dans l'air, le smoking de travers. Je te suis pas dans cette galère. Ta vie, tu peux pas la refaire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des gravats d'avant-guerre. Le casino, c'est qu'un tas de pierres. Ta vie, tu peux pas la refaire. Fermez les yeux des grandes fibres marines, tout à languie pour nuit de Chine, sur les banquettes de Moleskine, des limousines. Écoutez l'histoire entre Trouville et Dinard, d'un long baiser fini, c'est trop tard. Les mains sur le satin, caresse du matin au chagrin. Y'a de la rumba dans l'air, le smoking de travers. Je te suis pas dans cette galère. Ta vie, tu peux pas la refaire.
Catherine qui réinterprétait Y'a de la rumba dans l'air.
Merci beaucoup. Francine, je vous laisse poursuivre. On s'en va pas dans la reconnaissance faciale, mais dans le Bitcoin, non?
Non, 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 non. Le Bitcoin, c'est peut-être, Catherine. Peut-être. Sinon, la semaine prochaine, c'est sûr. On verra si on a le temps. J'irai avec, encore avec la reconnaissance faciale. Ah, oui. Oui, le visage canadien, finalement, c'est peut-être intéressant après avoir vu en Chine comment on voit ça. Donc, le visage canadien de la reconnaissance faciale, c'est toujours dans la presse plus du 28 avril avec Marc Thibodeau. La protection de la population contre les systèmes de surveillance vidéo et de reconnaissance faciale n'est évidemment pas une préoccupation uniquement en Chine. Aux États-Unis, une polémique a éclaté l'année dernière après qu'il eût été révélé que le FBI avait obtenu l'autorisation de la moitié des États du pays pour comparer les photos figurant sur les permis de conduire avec celles de présumés suspects. Le Canada n'échappe pas non plus aux interrogations. La reconnaissance faciale est de plus en plus présente au Canada dans le secteur privé, où elle est utilisée de longue date, notamment par Facebook, pour l'identification de photos. Apple y fait désormais appel pour l'ouverture de son téléphone dernier cri. Google l'a également utilisé récemment pour une application permettant de jumeler son visage à celui d'une œuvre figurant dans un musée. Lex Gill, une spécialiste des nouvelles technologies rattachée à l'Université de Toronto, note que les entreprises doivent obtenir un consentement clair de leurs utilisateurs pour collecter de telles données qui sont a priori régies par la loi sur la protection des renseignements personnels. Bien que plusieurs projets existent, notamment au niveau des douanes, l'utilisation de la reconnaissance faciale dans le secteur public demeure encore relativement limitée au pays. L'ex-Gill note que l'adoption de cette technologie par l'État soulève des questions importantes en matière de protection de la vie privée. Une utilisation inconsidérée pourrait notamment avoir pour effet de décourager les manifestations et la liberté d'expression. Il y a quelques années, le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique s'est inquiété que la Société de l'assurance automobile de la province ait proposé à la police d'utiliser les photos de permis de conduire pour identifier des émeutiers. La proposition était restée sans suite. Dans une analyse produite il y a quelques années, le commissariat à la protection de la vie privée du Canada relevait que nombre de gens s'habitueront peut-être à terme à ce que la reconnaissance faciale serve à des fins de sécurité, par exemple pour faciliter la tâche de policiers qui cherchent à identifier un individu soupçonné d'activités criminelles ou un fugitif. L'approche a été utilisée récemment par la Gendarmerie royale du Canada. L'organisation prévenait, en écho à l'ex-Gill, qu'il est à craindre qu'elle ne soit utilisée à un mauvais escient pour atteindre d'autres objectifs visés par les pouvoirs publics, par exemple, réprimer la dissidence. Les risques de piratage représentent aussi une préoccupation importante, relève-t-on. L'ex-Gill de l'Université de Toronto relève que la fiabilité de la technologie de la reconnaissance faciale est incertaine, ce qui soulève des questions importantes en matière de respect des droits de la personne. Son utilisation dans un contexte policier peut mener, dit-elle, à des identifications erronées et entraîner du même coup l'arrestation de personnes innocentes. Le fait que le pourcentage d'identifications erronées tente à augmenter pour les personnes issues de minorités visibles signifie par ailleurs qu'il existe un risque important de discrimination, souligne Mme Gill. Alors voilà le visage canadien de la reconnaissance faciale de Marc Thibodeau dans la Presse Plus.
Je poursuis mon article d'Aurélie Langteau. J'étais dans son numéro 1 de ce palmarès qu'elle appelle Perspective de humble mode de vie pour une décélération généralisée. On était dans le numéro 1, constater l'accélération. Et ça l'avait terminé comme suit, pour résumer trivialement, plus ça change, plus ça change. Oui, les nouvelles technologies ont réduit la durée requise pour effectuer bon nombre d'opérations. Le temps de travail rémunéré a également diminué par rapport au début du siècle dernier. Mais les injonctions pour accomplir un nombre de tâches toujours plus grand annulent les bénéfices. Voici donc venu le règne du multitâche et du décloisonnement des impératifs temporels. On ne se contente plus, par exemple, de se donner rendez-vous à une heure et un lieu donné. S'ajoutent des promesses comme « Je t'enverrai un courriel ou un texte à tel moment pour t'aviser de ceci ou cela ». On démultiplie les engagements à communiquer. On les superpose même. Qui n'a jamais envoyé un courriel pendant un autre rendez-vous? Il est par ailleurs si facile de rester en contact, de télétravailler et de rester près de son iPhone au cas où qu'il faut avoir une fichue de bonne raison pour se déclarer véritablement indisponible. Tout le temps dont on dispose peut être employé à opérer, à produire, à optimiser la vitesse d'atteindre un objectif. Et alors, même qu'il devient de plus en plus difficile de souffler, il faut, pour suivre le tempo de la vie sociale, consulter les nouvelles 12 fois par jour, découvrir les tendances qui se renouvellent aussitôt, se gaver de contenu culturel éphémère. Certes, on ne passe plus de 14 heures par jour au travail, mais qui oserait dire que les heures gagnées à cette plage horaire ont été réellement libérées? Les avancées technologiques qui accélèrent le rythme de la production nous ont-elles restitué du temps ou l'ont-elles au contraire aliéné par deux fois? Elle nous propose un point 2, réapprendre la lenteur. La question qui se pose ensuite est celle de l'espace restant pour les aspirations personnelles et sociales qui se déploient lentement à l'encontre de toute exigence d'efficacité. Pour y répondre, encore faut-il comprendre que ce lentement veut dire. C'est plus contre-intuitif qu'il n'y paraît, à l'heure où nous sommes puissamment conditionnés à la vitesse et à l'efficacité. Permettez-moi un détour. Lorsque je me casse pas la tête à écrire des textes pour l'une des rares publications de chez nous qui permettent de développer une idée sur plus de 500 mots, j'essaie de terminer une maîtrise en droit. Depuis que je fréquente cette discipline, je suis fascinée par la fréquence à laquelle on évoque, dans la littérature juridique récente, la notion d'efficience. L'efficience de la procédure, de la résolution des différends ou de l'attribution des ressources et des dommages. À quel point que ce principe semble faire écran à toute idée de justice comme horizon politique du droit. Et j'ai remarqué que la surenchère du vocabulaire de l'efficience dépasse ce domaine. Elle m'apparaît comme un signe du temps. C'est sans doute l'un des moteurs de l'accélération généralisée. Toujours, il faut faire au plus vite, en mobilisant le moins de ressources possible. C'est le mot d'ordre. Pour l'appliquer, des ordres de comptables, d'ingénieurs, d'actuaires et de gestionnaires proposent des stratégies inventives. Il suffit d'ailleurs de souligner l'autorité morale dont jouissent les experts de la productivité pour mesurer son importance dans la hiérarchie des valeurs sociales. Curieusement, lorsque l'efficience est ainsi placée en surplomb, le monde, tout en accélérant, s'aplatit. On perd de vue la dimension verticale des activités humaines, l'idée qu'il soit envisageable de se concentrer à une occupation qui réponde d'abord à un principe de justice, de beauté, d'originalité ou de spontanéité est disqualifiée d'emblée. Je poursuivrai cette lecture de l'article d'Aurélie Lantour. Nous sommes toujours dans son point 2 qui s'appelle « Réapprendre la lenteur ». Il y a 5 points au total, donc je poursuis ça dans quelques instants après cette courte pause publicitaire. Vous êtes toujours avec les Voix de service magazine. Nous sommes vendredi, les 9h27.
Thank you.
appelle-moi un taxi.
Dumas nous chantait « À l'est d'Éden ».
Merci beaucoup. Vous êtes de retour à votre émission Voix de service magazine avec Catherine et Francine. Francine, je vous laisse la parole pour la suite de ces articles très intéressants, techno, un peu techno.
Là, on s'en va dans le domaine de la recherche.
OK.
Avec la ligne rouge, en fait. C'est un éditorial de Marie Lambert-Chan, qui, je le rappelle, est rédactrice en chef de Québec Science, paru dans l'édition de mai 2018. Donc, ça s'intitule, comme je disais, « La ligne rouge ». Des chercheurs de l'Alberta ont ressuscité le virus de la variole équine. Une étude troublante qui soulève d'importantes questions éthiques. L'histoire s'apparente à la prémisse d'un scénario hollywoodien. À l'aide de fragments d'ADN achetés sur Internet, deux scientifiques recréent en laboratoire la variole équine et en publient la recette, ainsi disponible pour quiconque voudrait reproduire la forme humaine du virus, qui a tué près de 300 millions de personnes avant d'être éradiqué en 1979. Malheureusement, cela n'a rien d'une histoire de science-fiction. En janvier dernier, deux virologues de l'Université de l'Alberta ont publié dans PLOS ONE une telle feuille de route. Personne ne les a arrêtés, ni le comité d'éthique de leur établissement, ni l'Organisation mondiale de la santé, où ils ont présenté leurs travaux en 2016, ni le comité de révision de la revue Savante, ni les autorités des agences canadiennes de la santé publique et d'inspection des aliments que les chercheurs disent avoir consultés. La variole a pourtant tué plus de personnes que toutes les autres maladies infectieuses réunies. Doit-on publier? Y a-t-il des cas extrêmes où l'on doit tracer une ligne rouge? À l'heure où le bioterrorisme est considéré comme une menace grandissante et où les risques de pandémie n'ont jamais été aussi élevés, comment est-il possible qu'aucune de ces entités n'ait davantage contesté la pertinence de ces travaux, et ce, en dépit des avertissements lancés par de nombreux experts en biosécurité? Les scientifiques albertains ont concédé que leurs recherches tombaient dans la catégorie du dilemme du double usage, c'est-à-dire qu'elle peut être utilisée pour faire le bien comme le mal. Évidemment, à leurs yeux, ils poursuivent un noble objectif, concevoir un meilleur vaccin contre la variole et explorer une technologie qui pourrait les aider à produire des vaccins anticancéreux. Cela dit, leurs arguments tiennent difficilement la route. Le vaccin antivariolique a fait ses preuves. Pourquoi en produire un autre, surtout lorsqu'on ne recommande plus l'immunisation systémique de la population? Parce que l'étude est financée par une compagnie pharmaceutique, Tonix, qui espère commercialiser le futur vaccin. Par ailleurs, sous le vernis des bonnes intentions des chercheurs, se cachent des délais inquiétants qui ont émergé à la faveur du travail de journalistes américains. Le chercheur principal, David Evans, n'avait pas besoin de recréer le virus en laboratoire, puisqu'il existe un spécimen dans les congélateurs des Centers for Disease Control and Prevention. Il a même demandé à l'obtenir, pour ensuite abandonner sa requête, jugeant que ce virus n'aurait pas été aussi efficace pour mettre au point un vaccin sécuritaire, d'où le besoin d'en synthétiser un de toutes pièces. Mais est-ce vrai? Rien ne le prouve. Qui plus est, le doute est permis, car David Evans a admis qu'il souhaitait prouver au monde que la synthèse de la variole équine était faisable. C'est ce qu'il a affirmé, selon des témoins, pendant une réunion du comité consultatif de l'Organisation mondiale de la santé et de la recherche sur le virus variolique, où il siégeait en compagnie d'un autre chercheur qui a présidé le comité de révision de la revue PLOS ONE. Ce même comité, qui a approuvé unanimement la publication de l'étude, alors que les revues Science et Nature Communication l'avaient refusé. Cette saga soulève d'importantes questions qu'on ne peut plus ignorer. La science ne pourrait évoluer sans la liberté académique, soit. Mais doit-on tout publier? Y a-t-il des cas extrêmes où l'on doit tracer une ligne rouge? Si oui, qui est responsable? Ne devrait-on pas réfléchir à des mécanismes d'approbation et de surveillance qui impliqueraient à la fois les universités, les gouvernements, les organismes de subvention de la recherche, les journaux scientifiques, les organisations internationales et le privé? Trouver des réponses à ces questions est drôlement plus urgent que de mettre au point un nouveau vaccin contre un virus qui a disparu il y a 40 ans. Alors, l'opinion de Marie Lambert-Chan dans Québec Science, mai 2018.
Je poursuis ma lecture de l'article d'Aurélie Langteau dans Nouveau Projet. Chaque geste doit être efficient, mais jamais on ne pose la question du sens de l'action. On nous propose de vivre sur un mode purement opérationnel, comme s'il suffisait d'accomplir toutes les tâches stipulées à l'agenda. Travail, loisirs, vie sociale, pour se sentir épanoui. Pourtant, au terme d'une semaine chargée où je peux cocher tous les points de ma liste, j'éprouve un sentiment vaguement grisant, mais volatile. La satisfaction est en fait si superficielle qu'il faut recommencer de suite. Comment alors défendre les actions, les activités qui requièrent un effort long et soutenu, qui produisent très peu? La réalisation d'un ouvrage d'artisanat, l'engagement bénévole, la lecture de l'œuvre complète d'un philosophe, l'apprentissage d'une langue, l'entretien d'un boisé, voilà des projets qui peinent à survivre au sein de la société de l'accélération. Souvent, ce n'est pas encore le temps de s'y mettre. Rompre avec le cycle du rendement et de la gratification immédiate demande de l'humilité. Car refuser de répondre aux impératifs opérationnels, c'est aussi se placer dans la marge, où on ne rencontre que très rarement la validation extérieure. Peut-être donc faudrait-il cesser de se contenter d'être vaniteusement efficace pour mieux s'adonner aux activités qui ont un sens plus profond, même si leur rythme est lent, sinueux et peu productif. Son point 3. Concevoir l'amitié comme acte de résistance. Pour souffler un instant, en prenant un bain, en lisant un livre ou en pratiquant un sport, il peut être bénéfique d'aménager des îlots de décélération dans nos routines. Mais ces efforts individuels n'ont toujours qu'une prise limitée. Je propose d'aller plus loin dans la culture du ralentissement, en envisageant un soutien collectif à la décélération de chacun. Vaste programme, j'en conviens. Mais déjà, simplement, il me semble qu'on trouve les germes d'une simple résistance partagée dans l'entretien des liens d'amitié. La vitesse fragilise indéniablement les liens sociaux. Nos relations avec les autres souffrent de la densification du temps. Elles deviennent un item inséré dans la liste des choses à faire, ce qui laisse bien peu d'espace pour l'inattendu et la liberté des rencontres. Qui peut vraiment se permettre des dîners en semaine qui s'étirent dans l'après-midi, des promenades qui s'allongent, des apéros qui se transforment spontanément en repas, puis en veillée? Certes, ces moments existent, mais ils sont rares. Pourtant, chacun sait combien ils sont précieux pour approfondir les relations. On perd beaucoup à s'empêcher de survivre et de suivre le rythme naturel des interactions humaines, dont le déroulement est difficilement compatible avec des contraintes temporelles rigides. Ainsi, la culture de l'amitié, entendue au sens large, c'est-à-dire la culture d'un lien affectif marqué par la bienveillance, émet un contre-rythme. Puisqu'elle repose sur une réciprocité des gestes, elle est par essence une forme élémentaire de résistance collective à l'accélération. Point 4. Pensez la limite. Cet éloge de l'amitié est bien séduisant, me direz-vous, mais il faut admettre qu'on est loin du compte. Il suffit de constater à quel point notre société applique à toute chose une logique chiffrée, discréditant d'emblée ce qui échappe à la promesse d'une productivité optimale et par le fait même à la quantification. Ainsi, on ne peut affirmer la primauté des liens humains sans s'affranchir d'abord de l'obsession comptable qui domine l'imaginaire collectif. Le philosophe André Gortz écrit que la comptabilité connaît les catégories de plus et du moins, et elle ne connaît pas celle du suffisant. La recherche perpétuelle de la rentabilité est en effet étrangère à toute notion de limite. Il n'y a pas assez de cap au-delà duquel on se dira « voilà, c'est assez ». Nous avons assez couru, accumulé suffisamment de choses. Or, jamais on n'envisage que la croissance de la productivité puisse atteindre un degré pathologique. L'idée même qu'il puisse y avoir une limite paraît loufoque. La notion de suffisant n'a aucune valeur normative. Il me semble pourtant que c'est seulement en y donnant un sens qu'il devient possible d'envisager le ralentissement du rythme de la vie sociale. Savons-nous imaginer ce « casser » représenterait, concrètement? Il faut à tout prix initier cette conversation. Paradoxalement, c'est en fixant la limite de l'horizon que l'horizon s'ouvre. Il devient alors possible de construire une société qui place les besoins et les aspirations humaines au cœur de son fonctionnement. Cultiver les contre-rythmes et envisager un frein collectif. Pour mettre un terme à cette frénésie, il faut envisager un frein puissant qui ne peut s'activer que par un effort de levier collectif. Il faut, en d'autres termes, politiser notre rapport au temps afin de cerner les mécanismes qui dictent le tempo de nos vies en nous assujettissant et s'engageant ensemble dans la culture du contre-rythme. La reconquête du temps confisqué devient alors un véritable projet de société. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe déjà, encore, des institutions politiques qui résistent. Prenez les bibliothèques. Je m'attardais l'autre jour à la succursale montréalaise de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. J'observais les gens aller et venir, bouquiner, flâner, apprendre, s'amuser. Les bibliothèques publiques sont un pôle de résistance à l'accélération. Elles ont pour mission même de nous forcer à prendre un temps d'arrêt pour nous ouvrir au monde, à la vie culturelle et à la mémoire collective. Elles sont dépositaires de valeurs partagées étrangères à l'efficience. Le savoir, la culture, l'imagination, le silence, la réflexion, ces affaires dites non productives. Elles sont en ce sens conçues précisément sur un modèle de décélération. Ne pourrait-on pas s'inspirer de cela? Et si l'on s'engageait collectivement à encourager et à démultiplier les espaces de décélération? Quelle forme cela pourrait-il prendre? Comment envisager, par exemple, un travail axé davantage sur le sens et moins sur le rendement? Ce renversement des choses ne se fera pas sans rencontrer d'opposition, car c'est bien le moteur de toute une économie qu'on cherche ici à inverser. Au-delà de la culture de la lenteur, de l'amitié et des lieux de contre-rythme, c'est aussi une pratique de la résistance qu'il faut nourrir. Si l'on souhaite vraiment ralentir le tempo de nos sociétés, il faudra certes flâner, rire, s'éduquer et réfléchir ensemble. Mais il faudra aussi apprendre à s'organiser et à lutter ensemble. C'est notre article de Aurélie Langteau qui est chroniqueuse pour Le Devoir et Radio-Canada. Elle est également auteure. On lui doit un essai qui s'appelle « Des paillettes aux revendications, quelques brides du possible renouveau féminisme ».
Alors, je poursuis toujours sur la recherche. Lorsqu'on pense à la recherche fondamentale, on a souvent en tête des études de maîtrise, doctorat, mais si on commençait dès le cégep? Alors donc, un article de Martine Letarte dans Québec Science, cégepien et apprenti chercheur. Dans un coloré salon collaboratif du troisième étage au Collège Dawson, Hélène Nadeau, enseignante en physique et chercheuse, a donné rendez-vous à deux récents diplômés, Andrea Angelescu et William Asselin, maintenant en première année de baccalauréat, et jouissent d'une longueur d'avance sur leurs camarades de classe à l'Université McGill. L'été dernier, pendant 10 semaines, ils ont fait un stage de recherche où ils ont goûté à la démarche scientifique et travaillé de près avec des chercheurs. Pour offrir cette occasion aux étudiants, Hélène Nadeau a formé le groupe de recherche en neurosciences à Dawson en 2015 en partenariat avec des universitaires. Elle-même travaille étroitement avec Franco Leport, chercheur en psychologie à l'Université de Montréal, pour explorer les différences de connectivité entre les cerveaux des personnes voyantes et non-voyantes. Ouvert à tous les cégepiens, peu importe leur programme, le stage attire de vrais passionnés puisqu'ils ne sont pas rémunérés. Loin d'être affectés à la cafetière et à la photocopieuse, les étudiants reçoivent un mandat en lien avec leur champ d'études et leurs intérêts. Ils font de la vraie recherche et se familiarisent avec la réalité des scientifiques qui cherchent plus souvent qu'ils ne trouvent, affirme Mme Nadeau. C'est important de bien les encadrer pour qu'ils ne se découragent pas. Alors qu'elle venait à peine d'obtenir son diplôme d'études collégiales en sciences humaines, Andrea Angelescu a eu la chance de travailler avec Sylvia Cox, chercheuse en psychologie à McGill. Celle-ci a intégré Andrea à un projet de recherche longitudinal en toxicomanie. L'étudiante a ainsi épluché de nombreux questionnaires et tiré des conclusions quant aux traits de personnalité des participants. J'ai appris à travailler avec de grosses bases de données et un logiciel d'analyse statistique, raconte celle qui est maintenant au baccalauréat en psychologie à McGill. Pour Andrea, le stage ne fut pas une histoire d'un été, car elle a été invitée à poursuivre sa collaboration au projet de recherche. De son côté, William Asselin a créé une antenne capable de détecter la présence de carbone 13 en spectroscopie par résonance magnétique dans le cadre d'un projet de recherche de Jamie Nair, chercheur à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. C'est gratifiant de réussir ce genre de travail lorsqu'on est au cégep, affirme celui qui étudie en génie chimique à l'Université McGill. Le stage m'a fait comprendre que la recherche est une activité multidisciplinaire et qu'il faut travailler ensemble pour progresser. Si cette expérience permet aux cégepiens de développer leurs compétences en recherche et leur maturité, elle pourrait aussi les mener à co-signer une publication dans une revue scientifique. Tout dépend bien sûr de la contribution de l'étudiant, précise Hélène Nadeau. L'enseignante souhaiterait maintenant que ce stage optionnel puisse devenir un cours en bonne et due forme afin que davantage d'élèves en bénéficient. Avant, pour faire un stage en recherche dès le cégep, un étudiant devait avoir de bons contacts, affirme Hélène Nadeau. Maintenant, tous les étudiants à Dawson peuvent vivre cette initiative. Et comme Andrea et William, oser rêver à une carrière en recherche. Donc, c'est Martine Letarte qui nous parle en quelque sorte de la préparation de la relève en recherche dans Québec Science, mai 2018, un reportage qui a été rendu possible grâce au soutien de la Fédération des cégeps.
Ça me tente de terminer cette émission avec un peu de littérature. Je vous parle de littérature parce qu'il y a un dossier un peu important dans le nouveau projet de cette édition qui parle de littérature. Je vous donne juste un premier chiffre. 1000, c'est le nombre de livres que nous aurions le temps de lire si nous laissions de côté les réseaux sociaux et la télévision pendant toute une année. Donc, si on se détache de la reconnaissance faciale et des idées technologiques, on peut revenir aux livres et on serait capable d'en lire 1000. À savoir si on serait capable de tout se souvenir de tout ça, par contre. J'ai un faible pour les réviseuses. C'est un billet de Nicolas Dickner qui a été publié en août 2017 dans la section Aparté des éditions Alto, que reprend Nouveau Projet. Innombrables personnes contribuent furtivement au monde du livre. On songe tout de suite à l'éditeur, dont le rôle est aussi crucial que flou. On peut plus rarement à la graphiste, qui met le texte en page et assure que chaque ligne tombe à sa place, comme les pans d'un veston bien coupé. Et puis, il y a encore tout le monde qui s'affaire dans les bureaux et les entrepôts et sur la route et qui forme la vaste tribu du livre. Ces gens ne sont pas invisibles de manière incidente. Passer inaperçu fait partie de leur description de tâche. Il s'agit même d'un gage de qualité. Dans ces métiers, seule l'incompétence se distingue. J'ai maintes fois travaillé avec ces nombreuses personnes et j'estime à sa juste valeur le travail qu'elles accomplissent. Mais j'avoue avoir un faible pour les réviseuses. Je fais une entorse au masculin d'usage. En 15 ans de métier, je n'ai à peu près vu que des femmes se charger de cette tâche délicate. J'ai un faible pour les réviseuses, dis-je, mais ce n'est pas forcément réciproque. Je laisse passer pas mal de fautes. Il m'arrive d'avoir une tête de cochon et j'ai tendance à réécrire des phrases après la révision, une pratique qui équivaut à provoquer la fonte d'un réacteur nucléaire. Faut les comprendre, les pauvres. Réviser un roman, c'est une entreprise herculienne, un peu comme le nettoyage des écuries d'Augias, et les éventuelles fautes oubliées dans un texte ne sont pas imputables aux auteurs. Ce fardeau repose sur les épaules des réviseuses. Pas étonnant qu'elles développent, à force d'exercer ce métier, un épiderme coriace, des nerfs d'acier et une érudition grammaticale qui frôle parfois le surnaturel. Les réviseuses savent accorder les noms composés et les participes passés des verbes occasionnellement pronominaux. Les réviseuses ont des opinions complexes et documentées sur l'utilisation d'un tiret demi-quadratin. Les réviseuses connaissent le nom de chaque fleuve de Sibérie et elles placent toujours le W sur lettre compte triple au Scrabble. Notez bien, moi, l'aspect purement grammatical de la révision m'emmerde au-delà de toute description. Les débats interminables sur la ponctuation et les anglicismes me rendent malade, même si, j'en conviens, il s'agit parfois d'une maladie nécessaire. Ce qui me passionne, en revanche, c'est la révision de style et de contenu, car si leur attribution première est de redresser le texte sur le plan linguistique, les réviseuses s'occupent aussi de l'économie générale du texte. Et croyez-moi, elles ont le boulier dans l'œil. Les réviseuses notent d'infimes incohérences orthographiques situées à 50 pages de distance. Les réviseuses savent que « Yahoo » s'écrit avec un point d'exclamation, qu'il y a une majuscule à « Regionalzug », pardon mon allemand, et que les sinogrammes sur les conteneurs de la China Shipping Container Lines sont en chinois simplifié et non en caractère hanzi. Les réviseuses repèrent l'utilisation abusive de l'adverbe « incidemment » que vous avez placé trois fois dans un même chapitre. Les réviseuses établissent hors de tout doute que votre personnage doit avoir 24 ans et non 27 au chapitre 3 et vous signalent que la première chaîne de Radio-Canada ne portait pas encore ce nom en 92. Les réviseuses remettent nonchalamment le H à la bonne place dans le nom d'un appareil photo japonais des années 80 et 50. Les réviseuses se tapent les guides d'installation d'IKEA afin de vérifier que les petits trous et petits clous utilisés pour fixer le dos de la bibliothèque Billy ne portent pas le numéro 101-532, mais bien 101-201. Les réviseuses vous font remarquer, soit dit en passant, que le concours « Déroule le rebord » de Tim Hortons n'a pas lieu en juillet, mais en février. Le plus formidable, c'est qu'elle semble accomplir tout ça simultanément. Marcher d'un pas félin sur les trois escarpés de la narration, monter et descendre les escaliers de la vérification factuelle, patauger parmi les crocodiles dans les égouts de la grammaire. J'ai un faible pour les réviseuses, mais il faut bien admettre qu'elles sont aussi, à l'occasion, un peu terrifiantes. Alors, c'était un article de Nicolas Dickner, pardon, dans Nouveau Projet. C'est la fin de votre émission de Voix de Service Magazine. Nous sommes vendredi. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Francine, d'avoir été là.
Et ça m'a fait plaisir.
Mon nom est Catherine Emmanuel, mais je ne suis pas l'animatrice de cette émission normalement. Ça sera Hélène qui sera de retour la semaine prochaine. J'y serai également. Passez une excellente semaine. Bon week-end à tout le monde. À bientôt.